Vous écoutez RTL.
RTL, il est midi et demi.
RTL midi.
Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL midi. Et en ce mercredi 13 février, la fin du cauchemar de la première année de médecine, le projet de loi santé présenté en ce moment au Conseil des ministres, les études seront plus ouvertes et le numerus clausus saute. Près des trois quarts des Français utilisent leur voiture pour se rendre au travail. Une étude de l'INSEE montre que la carte de ces déplacements est calquée sur celle des gilets jaunes. Dans RTL Midi aussi, n'écrivez plus père et mère sur les formulaires scolaires, mais parent 1 et parent 2. Un amendement au projet de loi Blanquer a été adopté cette nuit pour intégrer les familles homo parentale. Le mobilier national est une institution à bout de souffle. Le rapport de la Cour des comptes s'est montré cinglant la semaine dernière. Le président du mobilier national a choisi RTL pour se défendre. Le PSG a rêvé plus grand en battant Manchester United 2-0. Sauf hypothétique remontada, les Parisiens peuvent déjà se projeter sur les quarts de finale de la Ligue des Champions. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle.
En deux mots, beau fixe.
Oui, beau fixe. Alors je regarde les images satellites. Bon, allez, ça traîne encore un peu dans le département de là ou encore sud de la Côte d'Or ou même du côté du département de l'Aisne. On a encore quelques nuages, mais c'est promis, là aussi ça va finir par se lever en cours d'après-midi comme dans toutes les autres régions. Eh bien ça sera du grand ciel bleu, on voit très bien la chaîne pyrénéenne, les Alpes avec l'enneigement, enfin c'est magnifique, tout cela avec des températures qui vont grimper par rapport à la matinée où il y avait encore de bonnes gelées. On sera entre 8 et 11 degrés dans la moitié nord, c'est 1 degré de plus qu'hier, et 11 à 15 degrés dans le sud.
Vous aurez la parole à 13h au 32-10. On attend aussi vos arguments sur Facebook et Twitter. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Et vous l'avez dit, un sujet sociétal comme on les aime. À l'école, les enfants n'auront plus de père et de mère. Ces notions sont dépassées. L'Assemblée nationale a donc adopté en première lecture cet amendement. Et dans les formulaires scolaires, on devra dire parent 1, parent 2. J'imagine que ça vous fera réagir au standard 32-10. Faut-il instaurer un jour férié dédié à l'Europe le 9 mai ? Paris est-il magique ? Je parle du Paris Saint-Germain. Voici tous les thèmes du jour. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
50 centimes la minute.
Et pour commencer cette question, comment allez-vous au travail ? Question qu'a posée l'INSEE aux Français. Résultat, vous êtes 70% à utiliser votre voiture, 16% les transports en commun, 7% y vont à pied, 4% en deux roues, motorisées ou pas. Le résultat n'est pas surprenant en soi, mais on comprend mieux pourquoi le mouvement des Gilets jaunes est parti de la question du carburant. Et à y regarder de plus près, la carte de France des moyens de transport épouse celle des Gilets jaunes. La fracture territoriale est criante, Éric Vanier.
Oui, globalement, les actifs sont très dépendants de leur voiture pour se rendre sur leur lieu de travail. Et plus on s'éloigne des centres-villes, plus ça se vérifie. Dans le cœur des villes, la voiture n'est utilisée que par la moitié de la population active sur les trajets domicile-travail. En périphérie, en banlieue, ce pourcentage grimpe à 76%. Les trois quarts donc des personnes qui travaillent prennent le volant pour rejoindre leur bureau ou leur atelier. Et hors des zones urbaines, on atteint 86%. Quasiment impossible donc, quand on habite la campagne, de travailler sans avoir le permis de conduire. Dans des départements très ruraux comme le Cantal, la Creuse ou la Lozère, 2% à peine des actifs prennent les transports en commun pour les travailler. Les autres doivent se rabattre sur leur voiture ou leur moto, ou pédaler, ou marcher. À l'inverse, à Paris et sa proche banlieue, les deux tiers des salariés, même un peu plus, utilisent un moyen de transport collectif matin et soir entre leur domicile et leur entreprise. 10% seulement leur voiture. Idem à Lyon, qui avec Paris et la seule ville où les transports en commun supplantent l'automobile.
Éric Vanier, la loi anti-casseurs est examinée en ce moment au Parlement. L'article 2 est toujours très controversé. Il prévoit des interdictions préventives de manifester. Le Conseil d'État a d'ailleurs été saisi de cette question, comme RTL vous le révélait ce matin. Le président du Conseil constitutionnel, Laurent Fabius, l'a aussi évoqué cette question avec Elisabeth Martichoux.
Il appartiendra au Conseil constitutionnel de lever le pouce ou de baisser le pouce. Bon, donc je ne vais pas anticiper sur la décision qu'on prendra. Simplement, il faut avoir à l'esprit que, traditionnellement, le Conseil constitutionnel est le gardien vigilant des libertés, et que là, en l'occurrence, il s'agit de savoir si tel ou tel article relève d'une loi anti-casseurs ou d'une loi anti-manifestants. Mais nous sommes toujours très attentifs, bien sûr, à la défense des libertés, qu'il faut concilier avec la protection de l'ordre public. Et si nous sommes saisis, nous déciderons.
Laurent Fabius ce matin sur RTL. Ce soir, Édouard Philippe sera face à 10 Français. Ce sera la grande explication en direct sur RTL et sur LCI à partir de 20h45. Une émission présentée par David Pujadas à laquelle participera Elisabeth Martichoux. Créer des hôpitaux de proximité, régulariser les médecins étrangers, revoir les études de médecine. Ce sont les trois grands axes du projet de loi santé examiné en ce moment à l'Assemblée. Alors, dans RTL Midi, nous avons décidé de nous intéresser à la formation de nos futurs médecins. Le numerus clausus si critiqué va sauter et la première année si sélective va être remplacée par d'autres cursus. Pour aller plus loin, nous sommes avec Frédéric Dardel, le président de l'Université Paris Descartes. Bonjour.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous pensez, vous, du numerus clausus? Vous dites enfin?
Alors, nous, en tant qu'universitaires, on applique ce qu'on nous demande. Nous, et la situation est probablement différente à Paris, où est l'université que je préside, et en province. Je pense qu'à Paris, il y a moins de soucis qu'en province, où effectivement, il y a des vrais déficits sur certains endroits dans la carte médicale.
Oui, bah justement, désormais, les agences régionales de santé détermineront université par université quels sont leurs besoins. Ça paraît être du bon sens quand même, non?
Ça paraît du bon sens, avec malgré tout des contraintes sur la formation des étudiants, puisque les étudiants en médecine sont formés par un processus de compagnonnage où ils apprennent dans les services hospitaliers, ils regardent faire, ils font, et donc il faut qu'il y ait suffisamment de places de stage dans les endroits où on va les former pour qu'ils puissent être en capacité de faire eux-mêmes, parce que c'est comme ça qu'ils apprennent.
Oui, puisqu'ils seront de plus en plus nombreux. Comment seront-ils sélectionnés à la fin de la première année, alors désormais?
Alors en fait, il y a les nouveaux textes qui sont pas encore complètement finalisés pour nous prévoient au moins deux voies d'accès possibles. Donc une voie d'accès dite portail qui sera une voie d'accès comme une première année générale à l'université pour les filières santé avec des possibilités de réorientation s'ils ne satisfont pas aux exigences minimales. Mais on va réorienter tout le monde, c'est ça que nous demande le ministère. Et surtout une nouvelle voie qui existait de façon un tout petit peu, je dirais, confidentielle pour l'instant, qui est la voie d'accès par des licences générales. C'est-à-dire que quelqu'un peut s'inscrire dans une licence dans mon université, dans n'importe quelle discipline, en économie, en informatique, en sciences sociales, et ensuite, pendant sa licence, faire des cours complémentaires dans les disciplines médicales, anatomie, physiologie, et à la fin de sa licence, postuler pour un accès par une passerelle à l'intérieur des études de santé.
Donc et ce serait une passerelle qui leur permettrait d'accéder directement en deuxième année, par exemple?
C'est ça.
Même pour quelqu'un qui a fait des études littéraires?
Absolument. Et ça existe déjà aujourd'hui. C'est un système qui a été mis en place dans le cadre de la loi Fioraso en 2013, mais qui pour l'instant a connu un développement assez petit parce que c'est pas très connu. Si aujourd'hui cette voie est très ouverte et permet un accès réel, on espère qu'il y aura une vraie diversification du recrutement.
Agnès Buzyn dit aussi qu'elle ne veut plus que les épreuves s'appuient uniquement sur des batteries de questions à choix multiples, la terreur des étudiants. Vous y êtes favorable, vous aussi?
Ah oui, nous, on pense que cette réforme est très souhaitable sur le plan pédagogique, parce que la première année, effectivement, les conduit à faire du bachotage, pas nécessairement à apprendre des choses vraiment utiles. Et en même temps, la méthode de sélection qui est mise en place est très réductrice. Donc nous, on est très favorable au changement. En revanche, ça impose un changement profond de l'organisation de la première année.
Eh ben, on aura l'occasion d'en reparler, Frédéric Dardel, puisque normalement, cette réforme doit être mise en place en 2020. Merci beaucoup d'avoir été l'invité d'RTL Midi. À bientôt. On fait une pause et dans un instant, n'écrivez plus père et mère, mais parents 1 et parents 2.
RTL Midi
avec Christelle Rebière.
C'est un amendement qui a été adopté au cœur de la nuit sur le projet de loi de réforme de l'école et qui va pourtant faire beaucoup parler. Sur les formulaires scolaires, les mentions père et mère pourraient disparaître et seraient remplacées par parent 1 et parent 2. L'idée, Marie Guerrier, c'est de faire une place aux familles homoparentales.
Oui, pour ancrer dans la loi la diversité familiale des enfants, explique la députée de La République En Marche, Valérie Petit, qui est à l'origine de cet amendement. Elle note que beaucoup de formulaires, alors comme l'inscription à la cantine ou l'autorisation de sortie scolaire, portent toujours les mentions père et mère. Des modèles sociaux et familiaux un peu dépassés, a ajouté sa collègue Jennifer de Temmerman, qui a défendu le texte hier dans l'hémicycle. Elle a conclu, c'est une mesure d'égalité sociale. Personne aujourd'hui ne devrait se sentir exclu par des schémas de pensée un peu arriérés. L'amendement a donc été voté contre l'avis du ministre Jean-Michel Blanquer. Il estime, lui, qu'il n'y avait pas besoin de passer par la loi pour ce changement de dénomination. D'ailleurs, sur certains documents scolaires, les mentions père et mère ont déjà disparu, remplacées par tuteur 1 ou tuteur 2, amenant les parents à se demander qui est le tuteur 1 et qui est le tuteur 2.
C'est la question d'après dans les familles. Merci Marie Guerrier. Le convoyeur voleur est toujours en garde à vue. Il a été arrêté en fin d'après-midi hier à Amiens, dans un appartement du centre-ville où la police a retrouvé plusieurs sacs remplis de billets. Le butin était estimé à plus de 3 millions d'euros. Amiens, c'est une ville où ce jeune homme de 27 ans avait vécu entre 2013 et 2016. Franck Hanson, vous êtes sur place pour RTL.
Oui, les policiers ont quitté les lieux avec ces gros sacs de billets hier soir dans cette résidence derrière la gare où Adrien Derbé s'était réfugié. Dans sa fuite, le convoyeur s'est retrouvé sur le balcon d'Eliane, une retraitée qui s'est fait une belle frayeur.
Il voit le bonhomme est allé là. Puis au même moment, on donne des grands coups dans la porte. C'était les agents de... Ils sont rentrés et boum, ça a été vite fait. Je ne sais pas comment il l'a fait. Pour arriver ici. Il était en haut, il était déjà repéré. Il était venu chez des amis.
Et de voir que c'était ce convoyeur qu'on recherchait avec ses 3 millions...
Ben, j'en aurais bien pris un petit peu. C'est pas croyable.
L'ancien fugitif avait quitté Amiens depuis au moins 2 ans, mais il y avait, semble-t-il, gardé quelques attaches. Dans son club de boxe thaï, Waïd, un de ses ex-partenaires, confie qu'il s'est laissé tenter par tout cet argent.
Sympathique, sportif, très 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 bon boxeur. Comme tout le monde, je pense qu'il a voulu s'en sortir. Il aimait les belles choses. Et il a eu une chance qu'il a pu saisir et qu'il ne sauterait pas dessus, qu'il ne serait pas laissé tenter par 3 millions d'euros.
Adrien Derbé n'aura pas eu le temps de profiter longtemps de son butin dans la capitale picarde. Il avait été rapidement localisé par les policiers lillois.
Franck Hanson à Amiens pour RTL. Carlos Ghosn muscle sa défense. Son avocat japonais a envoyé une lettre de démission au tribunal ce matin. On n'en connaît pas les motivations. Mais l'ancien patron de Renault affirme que c'est la première étape d'un processus qui lui permettra d'établir son innocence. Grève générale aujourd'hui en Belgique. Espace aérien fermé, transport perturbé, piquet de grève. Les principaux syndicats réclament des hausses de salaire. Des carrefours saturés où les klaxons et les chauffeurs s'égosillent. Vous connaissez ce genre de scène? Eh bien à Paris, désormais, mais si vous vous engagez dans un carrefour déjà très embouteillé, vous risquez 90 euros d'amende. La préfecture de police de Paris a même installé des caméras, notamment place de la Concorde, où vous vous trouvez, Marie Mollet, pour RTL.
Oui, je me trouve au sortir de la rue de Rivoli et juste devant moi, au sol, un grand damier jaune qui hache la route pour indiquer l'interdiction de s'engager en cas de bouchon. Sauf qu'ici, les conducteurs n'ont pas l'air très au courant. Qu'est-ce que c'est que ce marquage au sol, ce damier ?
Là, très très bonne question. J'ai jamais fait attention.
Ça signifie qu'il y a des embouteillages très fréquemment sur la zone.
J'ai lu l'info comme quoi ça allait me coûter cher.
J'ai même pas fait attention, pour moi.
Donc que le carrefour soit engorgé ou non, les automobilistes viennent se greffer au bouchon sous un flot de klaxons, comme Samir, qui est coursier.
Moi, je dis le feu, il est vert, j'avance, et s'il y a moyen de passer, je passe. Je fais pas attendre que tout le monde passe pour que je puisse passer. Et puis après, on rentre à la maison, on se dit... Ah, peut-être que là, je me suis pris une amende. Ah non, on n'est plus serein dans Paris à conduire. Oh, je crois que ça va être les transports.
Et quand Samir lève les yeux au ciel, il repère la caméra perchée en haut du feu rouge.
Ah, les caméras, oui, moi, je les vois, ouais.
Il y en a là, il y en a une au-dessus. Et puis,
celles qui sont vraiment, elles sont vraiment dures, c'est l'espèce de mitraillette, là. Il y a plusieurs boules, là, celle-là. Quand on les voit, elle est fatale, celle-là, faut pas jouer, celle-là, faut vraiment faire attention.
Et à partir d'aujourd'hui, Samir risque donc 90 euros d'amende s'il est surpris sur le damier, en plein milieu du carrefour.
Oui, et on rappelle aussi qu'un refus de priorité sur un passage piéton, c'est 90 euros d'amende et le retrait de 6 points sur son permis. Dans un instant, on parle du mobilier national qui ne digère pas du tout le dernier rapport de la Cour des comptes.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Il y a une semaine, tout juste, la Cour des comptes rendait son rapport et étrillait le mobilier national, cette institution qui gère un patrimoine de meubles et d'objets, qui les restaure, qui en crée d'autres et qui meuble notamment les résidences présidentielles, les ministères et les grandes administrations. Alors Sophie Orange, rafraîchissez-nous la mémoire.
C'est sûr, c'est vrai que les termes sont très durs. Gestion sclérosée, fonctionnement en vase clos, immobilisme, institution à bout de souffle. Le rapporteur entre ensuite dans le détail. 30 heures de travail seulement par semaine, pas plus de 176 jours par an et beaucoup d'alcool sur le lieu de travail. Autre critique, la pratique de la perruque. Autrement dit, les agents peuvent utiliser les ateliers à des fins personnelles. Côté salaire, selon la Cour des comptes, 27 000 euros annuels pour un technicien d'art débutant, plus de 61 000 en fin de carrière. Le rapport pointe également du doigt la très mauvaise précision de l'inventaire. Le mobilier national conserve dans ses réserves des dizaines de milliers de meubles et d'objets, sauf que personne ne sait où se trouvent 10% d'entre eux. La création de meubles semble également être au point mort. morts, 4 par an ces dernières années, qui sont en plus non utilisées. Conclusion de la Cour des comptes, une profonde transformation s'impose pour cette institution qui emploie 350 agents.
Et le Mobilier National a décidé de se défendre sur RTL par la voix de son directeur Hervé Lemoine. Bonjour.
Bonjour.
Alors, le Mobilier National est à bout de souffle, sclérosé, dit le rapport de la Cour des comptes. La charge est violente. On va reprendre, si vous le voulez bien, point par point. Les 350 employés ne travailleraient que 30 heures par semaine.
Oui, c'est pas tout à fait exact. Je pense que ça fait partie des quelques petites erreurs qui figurent dans ce rapport, qui par ailleurs pose un bilan sévère, mais il y a des choses intéressantes aussi à en tirer, bien sûr. Mais non, 30 heures par semaine, c'est pas le régime horaire. Le régime horaire de 38 heures et demie par semaine, et il est respecté.
D'accord. Alors la Cour des comptes dit aussi que les employés peuvent utiliser les ateliers à des fins personnelles. Vous trouvez ça normal ?
Non, c'est une tradition en fait très très ancienne dans les métiers d'art qui était d'autoriser tous les artisans à réaliser effectivement en dehors de leurs heures de travail des travaux personnels. Ça existe et ça a existé longtemps et ça existe encore même dans les grandes sociétés privées du luxe où les artisans peuvent réaliser à des fins personnelles dans une quantité très limitée, évidemment, un certain nombre de travaux. Chez nous, ça a existé, il ne faut pas le nier. C'est quelque chose qui est totalement en voie d'extinction. C'est extrêmement contrôlé, contingenté. Mmh. Et de toute manière, la nature des missions qui sont les nôtres, par exemple la réalisation de grandes tapisseries, ne se prête pas du tout à ce genre de pratique. Vous imaginez bien qu'on ne réalise pas en dehors de ces heures de travail des tapisseries de 4 mètres par 3. Voilà.
Autre attaque aussi concernant, on va dire, votre gestion des stocks. On ne sait pas où se trouvent 10% des objets du Mobilier National. Ça paraît colossal, ce sont quand même des objets qui font partie de notre patrimoine. Comment c'est possible qu'ils soient plus répertoriés ?
Alors là, en réalité, non, ils font référence à un rapport antérieur de la Cour des comptes en 1997, donc il y a près de 20 ans maintenant, où effectivement le récolement des œuvres était peut-être beaucoup plus aléatoire, en tout cas beaucoup moins sérieux qu'il n'est fait aujourd'hui. Et il y a eu, à cette époque-là, effectivement, on a fait le constat, en tout cas, de la disparition d'un certain nombre de pièces.
Donc, dont vous nous dites, en gros, ce chiffre est faux, maintenant on sait où se trouvent à peu près tous les objets ?
Il n'est pas faux. Il est l'héritage d'une situation très antérieure. Voilà. D'accord. Mais ce n'est pas la réalité de ce qui se passe aujourd'hui. Aujourd'hui, nous ne perdons pas la trace, fort heureusement, de 10% des biens que nous déposons. Je crois que c'est très important que l'on comprenne que le Mobilier National, c'est avant tout le mobilier de la nation et que nous en sommes donc comptable vis-à-vis de tous les citoyens. Et ça, la Cour des comptes a bien raison de le rappeler. Et c'est aussi la philosophie qui est la nôtre.
Et bien justement, puisque la Cour demande une profonde transformation, qu'allez-vous faire ?
Écoutez, déjà, on va entamer une profonde réflexion avec les directions du ministère, avec le ministre lui-même. Je pense que ça va nous inciter à avoir un dialogue pour voir quelles sont effectivement les mesures à prendre, les transformations à probablement adopter de façon.
Est-ce que par exemple il faut diminuer les effectifs ? Est-ce que par exemple il faut vendre une partie de ce mobilier national ? Quelles sont les pistes envisagées concrètement ?
Écoutez, diminuer les effectifs, je ne crois pas que ce soit la solution à quoi que ce soit. Je crois que, en revanche, d'avoir une meilleure gestion de nos collections, ça me paraît ça effectivement une piste intéressante, parce que nous avons beaucoup de meubles dans nos collections qui aujourd'hui n'ont plus d'intérêt pour l'ameublement et n'ont pas non plus d'intérêt en termes patrimonial. Donc ça, probablement, il faudra s'en défaire. Je pense surtout qu'il faut vraiment pouvoir permettre de soutenir beaucoup plus clairement la scène française en termes de design et de création.
Eh bien, on suivra attentivement la mutation du Mobilier National à suivre. Merci beaucoup Hervé Lemoine d'avoir été notre invité. On parle football. Le stade d'Old Trafford aura donc été le théâtre des rêves du PSG. Pour la première fois, un club français a réussi à s'imposer contre Manchester United dans une compétition européenne 2-0. Deux buts signés Kimpembe et Mbappé. Et ce succès en Ligue des Champions, c'est aussi et surtout celui de l'entraîneur Thomas Tuchel. Il a su créer les conditions pour que cette équipe se transcende, Nicolas Georgerot.
Exactement, c'est la concrétisation très précise, très nette de la patte Thomas Tuchel sur cet effectif. L'entraîneur du Paris Saint-Germain le répète depuis plusieurs semaines. Son équipe doit être capable de répondre à toutes les situations, qu'il y ait des absents, des blessés, qu'importe, les joueurs doivent être interchangeables. Il y a ce travail tactique pointu, cette approche mentale de l'événement réussi.
Nous avons joué comme une équipe et ça c'est les clés. Toujours ensemble et toujours prêts. Les gars ont défendu super attentifs et avec une top qualité. Ça c'était très bien.
Dans des entretiens informels, toute la journée d'hier, il a préparé les cadres de l'équipe comme Verratti, comme Marquinhos, qui amuse les Pogba, comme Thiago Silva aussi, à leur rôle, leur fonction. Tout s'est déroulé comme il l'avait prévu, explique le capitaine parisien.
Pas seulement lui, mais tout le staff, il travaille beaucoup pour nous donner beaucoup des informations de l'autre équipe. Et toutes les choses qu'il nous a dit, ça se passait aujourd'hui dans le terrain. C'est pour ça que nous sommes contents.
Et ça renforce évidemment la légitimité du technicien allemand auprès de ses joueurs. Tourelle exigeant mais aussi décontracté, pointilleux mais chaleureux. Le mariage est pour l'instant quasi idyllique. Ça c'est quand tout va bien, ça reste à voir également à l'épreuve de la première crise de résultats.
Nicolas Georgerot est sauf à redouter une remontada. En principe, le PSG a 97% de chances de se qualifier pour les quarts de finale.
Franchement, mais c'est pervers.
C'est réaliste. Hein. Bon, enfin, vous savez que chaque jour célèbre une journée de quelque chose. Ça va vous intéresser, Pascal, parce que ce 13 février a retenu notre attention. C'est la journée mondiale de la radio. Alors, on ne va pas bouter notre plaisir. Et le thème de cette année choisi par l'UNESCO, c'est dialogue, tolérance et paix. Ça permet de rappeler que la radio est avant tout un lieu d'échange entre vous et nous. Ce n'est pas vous qui allez me dire le contraire, Pascal.
Vous avez bien raison. Mais je riais tout seul en écoutant la formidable interview que vous avez menée avec Hervé Lemoine, qui est directeur du Mobilier National. Le rapport de la Cour des comptes est quand même assassin. Oui. Alors, il dit, oui, ça, c'est très, très intéressant. Qu'est-ce que vous allez faire ? Oh, rien du tout. On va mener une réflexion.
On va mener une réflexion.
Voilà. Oui. C'est-à-dire que tout ce que vous lui disiez, ah oui, c'est très intéressant. Ah, mais non, mais ça, c'est pas du tout ce qui est écrit. Non, bon. Et on se rend compte immédiatement en écoutant que, bon, il va rien se passer, quoi. Puisque déjà, il y a une négation manifestement de ce que dit la Cour des comptes. Et puis, les solutions proposées, manifestement, elles ne sont pas pour tout de suite. Mais c'était intéressant. Néanmoins, comme sera intéressant tout à l'heure de parler de parent 1, parent 2, puisque vous le savez, l'Assemblée nationale a adopté mardi en première lecture un amendement qui consacre l'homoparentalité dans les formulaires scolaires. Hein. C'est ça qui est important, dans les formulaires scolaires. Donc on ne dira plus père ou mère, on dira parent 1 et parent 2. C'est un thème vraiment important à traiter aujourd'hui. Faut-il instaurer un jour férié dédié à l'Europe le 9 mai ? Pourquoi pas ? Paris est-il magique ? On parlera football. Et puis, quelles sanctions pour les casseurs, puisque c'est aujourd'hui le procès de Christophe Détinger.
Oui, ce sera tout à l'heure à partir de 13h30 en correctionnel à Paris. La météo, Louis Baudin. Quelle journée !
Ah, exactement, là, c'est du grand ciel bleu. Là, je vois de la Bretagne aux Pyrénées, des Pyrénées aux Alpes, en Ile-de-France. Maintenant, ça y est, ça s'est presque totalement dégagé. Bon, allez, encore quelques nuages là, du côté de l'Ain ou encore du côté de l'Aisne. Mais je vois que depuis tout à l'heure, ça s'est déjà un peu dissipé. Donc là aussi, vous aurez du soleil. Puis côté température, bon, bah, après le froid du matin, hein, encore dégelé, ça grimpera un petit peu par rapport à hier. 8 à 11 degrés dans la moitié nord, 11 à 15 degrés dans le sud.
Et demain ? Même programme ?
C'est la même chose, avec quelques brouillards le matin, notamment autour des vallées de la Garonne dans le nord. Et puis après, ça sera du grand soleil là aussi, quelques nuages peut-être dans le Languedoc-Roussillon. Côté température, toujours dégelé le matin, parfois assez marqué dans le nord. Mais l'après-midi, 11 à 13 degrés dans la moitié nord. On va gagner 1 ou 2 degrés par rapport à aujourd'hui. Et on sera entre 14 et 17, 18 degrés dans le sud. 19 à Biarritz demain.
Oh, il faut aller d'urgence à Biarritz.
Et oui, c'est du basque.
Et 13 heures.
Le Tout Info, des auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec vous, Bénédicte Tassard, bonjour.
Bonjour et bonjour à tous. Christophe Détinger dans le box du tribunal correctionnel de Paris dans une demi-heure. L'ex-boxeur comparé plus d'un mois après avoir violemment frappé deux gendarmes pendant une manifestation des Gilets jaunes. Une agression filmée et largement diffusée sur les réseaux sociaux. Christophe Détinger sous les verrous depuis le 9 janvier. Il risque jusqu'à 7 ans de prison. Il avait présenté ses excuses, mais pour le maréchal des logis chef Guerrero, président de l'association Gendarmes et Citoyens, partie civile à l'audience, cela ne suffit pas.
Ça montre qu'il a peut-être des regrets, des remords, mais quoi qu'il en soit, les faits sont là. C'était absolument insupportable de voir un individu boxer des gendarmes. Donc nous, on ne demande pas à ce qu'il soit condamné à la peine maximum, c'est pas le but non plus. Mais une condamnation ferme, ça veut dire simplement une condamnation à la hauteur des faits qui lui sont reprochés. On peut pas laisser ce genre de choses passer, parce que vous imaginez bien le message que ça laisse passer envers nos concitoyens. C'est juste inacceptable. C'est un ancien boxeur professionnel, c'est un personnage public, donc imaginez bien l'image que ça peut renvoyer vis-à-vis de la jeunesse. On nous demande de l'exemplarité dans notre profession, à l'inverse, un personnage public doit être exemplaire, et là, c'est pas le cas.
Le maréchal des logis, chef Guerrero avec Thomas Proutot. Laurent Wauquiez à Lavaur dans le Tarn pour visiter la cathédrale Saint-Alain, dégradée et incendiée la semaine dernière. Dans toute la France, ces derniers jours, 5 églises ont été vandalisées. Le président du parti Les Républicains réclame la sécurité de ces lieux de culte.
Je ne peux pas accepter cette indifférence, parce que ce ne sont pas des gestes anodins. Parce que dans une société, pour vivre ensemble, il faut qu'on respecte ce que chacun a de sacré. Au-delà même de la communauté des chrétiens, c'est tous les Français que ça blesse. Ces cathédrales, nos églises, c'est des lieux de paix. C'est des lieux qui renvoient à notre histoire, à nos racines, à ce qu'on est. Les profaner, c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère. Et ce que je demande, c'est que nos églises et nos cathédrales restent ouvertes. Parce que le danger, c'est que la réponse, ce soit au contraire de les fermer, de les barricader. Et je demande au gouvernement de veiller à ce qu'on puisse assurer la sécurité de nos églises. Plusieurs églises profanées en peu de jours, c'est pas quelque chose d'anodin. C'est quelque chose qui blesse la France. Et donc ça ne doit pas passer sous silence. Il ne doit pas y avoir d'omerta là-dessus. On doit pouvoir réagir.
Laurent Wauquiez avec Patrick Tégéraud à Lavaur. De nouvelles plaintes visant le glyphosate. Elles seront déposées cet après-midi au tribunal de Toulouse par 45 citoyens, 45 personnes qui ont fait des analyses d'urine et leur urine contenait des traces de ce pesticide. Parmi ces personnes, Pascal Barbier qui dénonce une reculade du gouvernement. Ce dernier a confirmé que dans 3 ans, 20% des agriculteurs utiliseraient encore du glyphosate.
On est extrêmement en colère. C'est plus des atermoiements, c'est carrément des reculades systématique sur ce dossier-là. Et on voit bien derrière la patte de l'industriel qui fait pression par différents moyens sur les responsables politiques. On vient d'avoir un rapport là, de scientifiques australiens et chinois. Ils nous disent que dans 100 ans, il n'y aura plus d'insectes sur la planète si on continue comme ça. Et la cause majeure, ce sont les pesticides. Donc aujourd'hui, il y a urgence d'arrêter d'utiliser les pesticides chimiques.
Pascal Barbier à Toulouse avec RTL. Carlos Ghosn change l'équipe de sa défense. Son principal avocat japonais démissionne. Philippe Dova, vous suivez ce dossier pour RTL. On ne sait pas exactement si l'ex-patron de Renault-Nissan Mitsubishi lui a demandé de partir.
Pour l'instant, c'est assez confus. Difficile de savoir précisément si les avocats ont démissionné de leur plein gré ou s'ils ont été purement et simplement congédié par Carlos Ghosn. Si le choix de Motonari Utsuru, ancien procureur de Tokyo devenu avocat, avait pu paraître judicieux au début de l'affaire pour assurer la défense de l'ex-président de l'alliance Renault-Nissan-Mitsubishi, sa proximité avec le procureur actuel et surtout son pessimisme affiché lors de sa conférence de presse le 8 janvier sur le maintien en détention de son célèbre client jusqu'à son procès, pourrait expliquer la décision de Carlos Ghosn qui continue à clamer son innocence. Ses démissions tombent on ne peut plus mal à la veille de la première réunion de préparation du procès de Carlos Ghosn et c'est une star du barreau de Tokyo, Junichiro Hirotanaka, qui a été choisi au pied levé pour assurer sa défense. Il devrait à ce titre être présent demain matin lors de cette première réunion de préparation du procès.
Philippe Dova à Tokyo pour RTL. C'est l'heure de notre point quotidien à la Bourse de Paris avec Sylvie Aubert d'Investissement Les Échos. Bonjour Sylvie.
Bonjour Bénédicte.
Et aujourd'hui, c'est Donald Trump qui soulage la bourse.
Eh oui, une fois n'est pas coutume. Le président américain a fait une déclaration qui a plu au marché. Il a indiqué qu'il était ouvert à un délai dans les négociations commerciales avec la Chine. La bourse ne pense qu'à ça en ce moment. Alors vous vous souvenez que la date fatidique pour obtenir un accord avec les Chinois était fixée au 1er mars. Si les discussions pouvaient se poursuivre plus longtemps, bien sûr, ça augmenterait les chances d'obtenir un accord. Mais soyons quand même prudents. Demain, un tweet négatif pourrait parfaitement balayer ce bel optimisme. Les opérateurs ont également apprécié que les élus du Congrès soient parvenus à s'entendre sur la sécurité aux frontières. On parle bien sûr de la frontière États-Unis-Mexique. Un deuxième shutdown pourrait donc être évité. Les marchés affichent tous de solides progressions un peu partout dans le monde et le CAC poursuit son rebond. 5070 points. Ingenico bondit de 10%, Orpea de 7% après la publication de leurs comptes annuels et de leurs objectifs.
Merci Sylvie. Sylvie Aubert d'Investir les Échos. Une pause et dans un instant, les auditeurs ont la parole. Les standardistes et Pascal Praud vous attendent au 3210.
Vous écoutez RTL.